Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux et je suis seule à la manœuvre. Dans ce « nous », Nicolas Hulot, en démissionnant ce matin, ne parlait pas que du gouvernement français, pas seulement. Il le mettait dans le même sac que les autres, ce moment de ras-le-bol, cette immense fatigue. C'est aussi une sorte d'aquabon qui se décline dans toutes les langues. La maison brûle au sens propre, la Grèce, la Suède, cet été. Nous allons d'ailleurs y faire un tour dans Un jour dans le monde. Mais que sont devenus les enthousiasmes de 2015 après la COP21 où tout le monde s'était gargarisé? Qui a pris le taureau climatique par les cornes? Finalement dans le monde, quel pays progresse vraiment à la bonne vitesse comme nous le souhaiterions nous aussi? Les États-Unis sont partis de l'accord de Paris, on le sait, mais à l'époque, les autres signataires, souvenez-vous, disaient « mais on peut avancer sans eux ». En réalité, eh bien, posons les questions. Qui décarbone réellement? Qui supprime les pesticides? S'il n'y avait pas ces procès individuels contre les multinationales, qui les mettrait face à la toxicité de leurs produits? On l'a vu récemment aussi autour de Monsanto aux États-Unis. Nous y serons également. Jean-Marc Four nous joindra à 18h55 en se posant la question aussi de qui dirige, qui a le pouvoir finalement derrière tout cela. C'est ensuite dans le téléphone sonne dans cette spéciale 18-20 que vous pourrez réagir et nous donner votre avis au 01 45 24 7000 pour l'heure. Le monde est vaste, il est pollué et on n'a toujours qu'une heure.
Fabienne Synthès. 18-20 spécial.
Et autour de la table pour discuter de tout ça ce soir sur France Inter, François Gémen est là, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en sciences politiques, vous êtes spécialiste des questions environnementales et migratoires. Vous enseignez notamment à Sciences Po, vous êtes directeur exécutif du programme politique d'environnement. François Mayrette, bonsoir.
Bonsoir.
De l'association Génération Future, les pesticides, les insectes ici, tout ça sont des choses que vous connaissez évidemment par cœur. Et puis Dominique Bourg nous rejoindra aussi dans un instant sur France Inter, il est philosophe, il est vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme qui s'appelait la Fondation Nicolas Hulot jusqu'à assez récemment et son dernier livre s'appelle Une Nouvelle Terre. Il sera avec nous dans quelques temps. J'ai envie de commencer avec vous François Gémen et finalement de revenir à la question initiale de ce matin lorsque Nicolas Hulot a déroulé l'argumentaire de sa démission, on va dire ça comme ça. La question c'était pourquoi collectivement et mondialement nous n'arrivons pas à nous émouvoir suffisamment pour faire des choses qui sont très concrètes. Ça nous concerne, mais ça concerne le reste du monde. Est-ce que vous l'avez, cette réponse? Comment tout ce qui se passe autour de nous n'est toujours pas suffisant?
C'est la question à 1000 euros. Et il est certain que quand on écoute l'entretien de Nicolas Hulot ce matin sur cette antenne, c'est un entretien qui est terrible à écouter parce que Nicolas Hulot dit « j'ai fait tout ce que j'ai pu et pourtant je n'y arrive pas et donc je m'en vais parce que je constate que le compte n'y est pas, qu'on n'y arrive pas malgré les intentions affichées. »
Il dit même « je n'y crois plus », ça veut dire qu'il n'a même plus l'idée qu'il peut faire avancer un peu les cailloux.
L'État aujourd'hui est impuissant à répondre à ces enjeux et c'est un constat vraiment terrible. On était en décembre 2015, au moment de l'accord de Paris, optimiste quant à nos possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour garder le changement climatique sous la barre des degrés. On se rend compte aujourd'hui qu'on n'y arrive pas et que ce n'est pas seulement le cas en France, que c'est le cas en Allemagne, que c'est le cas en Australie, que c'est le cas en Belgique, que c'est le cas aux États-Unis, bien entendu, et qu'aujourd'hui, on est parti sur une trajectoire à 4 degrés, voire plus.
François Mayrette, qu'est-ce qui fait, même question, qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas voir que la maison brûle au sens propre du terme, en fait? Ou qu'on ne veut pas le voir, parce que ça, on le sait. Pour le coup, on est informé.
On a une période particulière de l'histoire. Je crois que les constats sont faits. On sait qu'on est au début d'une très grave crise climatique. On constate une crise de la biodiversité terrible, avec des pertes d'espèces mesurables. Ces pertes sont vertigineuses. On sait qu'il y a une crise sanitaire liée à l'impact terrible de la pollution au sens large sur la santé publique, et une crise de l'énergie. Et en même temps, on n'arrive pas à changer les paradigmes de notre mise en valeur de la société. On continue sur un ancien modèle, alors qu'au même moment, on sait qu'on a affaire face à des crises sans précédent qui nécessiteraient une réponse complètement en rupture avec l'ancien modèle. Donc c'est là toute cette schizophrénie de l'époque qui fait qu'aujourd'hui, on est capable à la fois de dire, en tant que responsable politique, on a entendu ça dans les mois passés, qu'on constate, oui, effectivement, et on reconnaît la crise écologique, les crises écologiques, mais les politiques qui sont mises en place, c'est business as usual, c'est-à-dire les mêmes vieilles recettes, les politiques du XXe siècle alors qu'on est au XXIe siècle, et que si on ne fait rien, bah oui, la maison brûlera demain, mais pas seulement par le réchauffement climatique avec tous ces impacts.
Et on y viendra, mais est-ce que c'est que les politiques? Est-ce que c'est pas nous aussi? Je pense pense qu'on viendra sur ce sujet, mais moi ici, je sais comment est fabriqué mon téléphone portable. Je sais d'où viennent les métaux rares. Je sais qu'ils sont extraits en Chine. Je sais dans quelles conditions. Je sais que écologiquement, c'est épouvantable. Et pourtant, j'en change tous les deux ans. Enfin, est-ce que la responsabilité, on a beaucoup pointé les politiques, on y viendra aussi, on a pointé les lobbyistes. La mienne, elle est où la mienne en fait ?
C'est une responsabilité, je crois, de la société tout entière. Et c'est peut-être pour ça, au fond, que Nicolas Hulot n'accable pas trop le président et le gouvernement, parce qu'on se rend bien compte que collectivement, nous n'y arrivons pas. Et je pense que si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous essayons de contenter des intérêts multiples. Et donc on fait un peu ceci, un peu cela, mais dans le même temps, on va faire autre chose qui est complètement contradictoire. Et on n'a pas encore aujourd'hui intégré la question environnementale, la question du changement climatique ou de la perte de biodiversité, comme une matrice à l'aune de laquelle tous nos choix individuels et collectifs doivent s'opérer.
Dominique Bourg qui nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Bourg.
Bonsoir.
En direct depuis Lausanne, pour oui. Nous, dans Un jour dans le monde. Est-ce qu'on peut, parce que moi j'ai un peu peur qu'on soit très 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 pessimiste au cours de cette émission, et en même temps, peut-on être autre chose que pessimiste ? Mais je voudrais quand même, vous qui avez suivi, et comme nous tous d'ailleurs, ce qui s'était passé en 2015 au moment de la COP21, il y a quand même un cercle vertueux quelque part ou pas, Dominique Bourg ? Qui a compris cet enjeu-là ? Qui s'y est engouffré ? Ou est-ce qu'on est tous en train de mettre la tête dans le sable finalement, mondialement, je dirais ? Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, voilà, deux pays qui travaillent ?
Non, du côté des dirigeants, je pense qu'on reste alors manifestement la tête dans le sable et parfois on la plonge même très profond. Hein. Donc ça, malheureusement, je vois pas à l'heure d'aujourd'hui un seul dirigeant sur la planète qui ait pris la mesure des choses. Alors je rappelle souvent ce texte-là, mais vous regardez, il date de 92, hein, c'est la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Article 3, alinéa 5, je vous le résume, mais en gros, c'est la chose suivante. Toute mesure en faveur du climat, pour protéger le climat, qui mettrait en cause le commerce international et sa croissance, doivent être prohibées. Donc si vous voulez, la messe est dite. Tant qu'on reste avec ce référentiel-là, effectivement, on n'arrivera pas à changer. Et les choses vont continuer à se dégrader, et ça vient d'être rappelé, le degré de dégradation qu'on a déjà atteint est gigantesque. Même si on était très très volontaire, on ne sortirait pas de l'Anthropocène. Les conditions de vie sur Terre seraient plus difficiles, elles vont être plus difficiles d'année en année, de décennie en décennie. En revanche, si on continue sur le train où on est, vous lisez une certaine littérature scientifique, on peut très bien imaginer une population résiduelle d'un milliard à la fin du siècle. C'est ça l'enjeu. Donc, et on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais il est clair qu'en gardant un référentiel néolibéral, l'économie néoclassique, on ne pourra rien faire. On va continuer à avancer vers l'abîme. Et en revanche, on pourrait faire... Moi, là, j'ai une petite différence avec mon ami François. J'ai cru au début...
Quel ami François ? On a deux amis François autour de cette table.
J'ai même, mais on est tous les deux à la FNH ensemble. Donc, j'ai cru à un moment donné, si vous voulez, que le... En même temps, ça n'était pas du flan. Et j'ai pensé que pendant un certain temps, le gouvernement aurait pu prendre un certain nombre de choix, faire un certain nombre de choix en termes d'infrastructures. Par exemple, sur la question du climat, emboîter le pas, la proposition Josel Larouturou, c'était vraiment mettre sur pied un plan climat. Les glyphosates, vous rigolez, on va le remplacer par une autre molécule. Qu'est-ce que ça va changer ? Elle va être évaluée par les mêmes procédures tout à fait douteuses. Donc non, installer une sorte de parcours progressif vers l'agroécologie généralisée. Du côté de la feuille de route sur l'économie circulaire, elle a accouché d'une mini-souris, et encore, pour ne pas dire même un insecte, alors que on pouvait, d'aucuns l'avaient fait, proposer au gouvernement des propositions qui ne mettaient pas l'économie en l'air et qui permettaient d'infléchir la trajectoire industrielle. C'est-à-dire que pendant quelques années, on aurait très bien pu faire du en même temps. Alors au bout d'un moment, évidemment, la contradiction aurait été patente, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, il fallait que les flux de matière, les flux d'énergie redescendent, et ça, on ne sait pas faire sans faire redescendre nos consommations. Il faut que la chose soit très claire. Mais pendant un certain temps, vous auriez eu de l'emploi, vous auriez eu de l'investissement, vous auriez eu du PIB qui croît, eh bien, même pas. On s'est même pas donné la peine de faire ça. Et dès le mois de février, on pouvait savoir, si on n'avait pas compris avant, mais là, ça devenait très clair, et c'est devenu très clair avec le débat sur la Constitution. Il est devenu très clair qu'on ne voulait pas faire ça. Dominique, alors la dissonance cognitive, elle a cru chez notre ami Nicolas, il a fini par craquer.
Je voudrais qu'on se remette à l'échelle du monde, en fait, et quand on parle de ce fameux « en même temps », mettons les pieds dans le plat, François Gémen. Je regarde un certain nombre de pays qui ont fait un certain nombre d'efforts. Je vois la Chine, par exemple, qui a un taux de particules fines dans l'air scolaire, alors qui dépasse évidemment tous les plafonds à l'échelle de la Chine, mais qui est en train de réduire sa production de charbon, c'est une réalité. L'Inde est en train aussi de miser sur le solaire, avec cependant, en parallèle et en même temps, j'allais dire, 471 centrales à charbon, ce qui est énorme. Est-ce qu'on peut demander à un pays comme l'Inde aujourd'hui, qui a impératif de donner de l'électricité, de donner de l'énergie à chacun des Indiens, chacun des membres de sa population, est-ce qu'on peut lui dire, il va falloir renoncer à ces 471 mines de charbon?
C'est très compliqué.
Ça veut dire, voilà, quand on parle de changement de modèle, est-ce qu'on peut vraiment dire ça à un pays comme celui-là, par exemple?
C'est comme si vous aviez un trésor de pièces d'or au fond de votre jardin et qu'on vous dise, surtout, vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas déterrer ces pièces d'or parce que ça va foutre la planète en l'air. Il est certain que c'est très compliqué aujourd'hui de s'adresser à l'Inde ou de s'adresser à la Chine et demain de s'adresser aux pays en développement en Afrique ou en Asie du Sud en ces termes. Et donc, ce qu'il faut trouver, c'est l'enjeu des conférences internationales comme la COP21, c'est de trouver une manière qui permette, je dirais, de comparer les efforts des uns et des autres pour que le compte soit bon à la fin. Et le problème, c'est que le compte n'est pas bon, même si on regarde au moment de l'accord de Paris, l'engagement collectif qui est pris, c'est un engagement à 2 degrés. Quand on additionne les engagements nationaux des différents gouvernements, on arrive à 3,5 degrés. Ça veut dire que même si tous les gouvernements du monde faisaient exactement ce à quoi ils s'étaient engagés en 2015, c'est-à-dire si Hillary Clinton avait été élue plutôt que Donald Trump, par exemple, même dans ce cas-là, on arrivait quand même à 3,5 degrés. Et donc, il y a une sorte de dissonance terrible entre nos intentions et nos actions, entre nos engagements collectifs et nos réalisations individuelles.
François Vayrette, on avait dit à l'époque, vous vous en souvenez, quand Trump est parti, on avait dit, on avait beaucoup entendu d'ailleurs les autres pays dire « mais on fera sans lui, nous on continue à avancer, etc. » Est-ce que tout ça, c'était vraiment du marketing politique, de l'effet d'annonce? Est-ce que réellement, on peut dire que le départ de Trump, pour le coup, a mis un coup d'arrêt auprès de tout le monde parce qu'on ne va pas faire d'efforts puisque les Américains n'en font pas de leur côté? Dans la réalité, ça s'est passé
quoi? La politique environnementale de Trump est catastrophique, mais il n'est pas responsable à lui tout seul de ce qui se passe dans le monde. Comme ça vient d'être dit, de toute façon, même si on avait respecté la trajectoire des accords de Paris, le compte n'y était pas. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est être capable de dépasser les égoïsmes des pays les plus développés pour permettre à d'autres pays moins riches d'accéder à un niveau de développement et de bonheur humain acceptable, tout en préservant l'avenir. C'est ça la question. Aujourd'hui, on continue avec les mêmes paradigmes qu'au 19e et au 20e siècle, finalement, même chez nous en France, en faisant croire à l'ensemble de la population qu'on va pouvoir continuer à augmenter le volume des biens produits et consommer toujours plus d'énergie, toujours plus d'espace, toujours plus de ressources naturelles, et que ça va continuer de manière infinie. C'est bien sûr quelque chose d'impossible, puisque le monde dans lequel nous vivons est un monde fini, et on le sait, mais comme le dit très bien Corinne Lepage, qui est extraordinaire, c'est qu'on ne croit pas ce que l'on sait. Et aujourd'hui, on est dans un système duel dans lequel on sait très bien qu'on va dans le mur, mais tout se passe comme si on n'y croyait pas vraiment, et comme on n'y croit pas, quand je dis « on », c'est l'ensemble aussi, les décideurs, bien sûr, qui vont prendre en premier ces décisions, on n'agit pas, parce qu'on cherche à continuer à protéger l'ancien monde tout en prétendant préparer le futur, ce qui bien sûr est complètement impossible. Il y a donc des choix drastiques à opérer.
Alors l'une des raisons pour lesquelles on ne peut plus dire, on ne voit pas, on ne se rend pas compte parce que c'est pas tangible encore, ça c'est faux, puisqu'on voit des choses aujourd'hui qui sont tangibles. Je voudrais qu'on prenne quelques exemples qui sont pas vus, hein. C'est des exemples qui datent tous de cet été. Notre première escale, évidemment vous allez le deviner tout de suite, c'est en Grèce que nous allons. Et ce que nous explique la Télégrecque en ce moment, vous avez vu les images comme nous, ce sont ces incendies absolument gigantesques qui ont dévasté ce pays pendant tout l'été. Bonsoir Angélique Kournis.
Bonsoir.
Je voudrais que vous nous donniez une image de ce à quoi ça ressemblait, ces incendies monstres, chez vous, en Grèce, aux portes des gens, réellement. L'image qu'on garde de cet été chez vous, c'est quoi?
L'image, c'est une apocalypse.
Allons bon. Voilà qu'on a perdu Angélique Kournis. Est-ce qu'on l'a perdu définitivement, Angélique, ou pas? On l'a perdu. Je vais vous poser la question, tiens, à vous, Dominique Bourg, quand on dit, voilà, ça, ce sont des choses très concrètes qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, c'est à la télévision, ces images ne suffisent pas, et même les efforts d'ailleurs de la part des Grecs, qui ont, je vous l'accorde, d'autres chats à fouetter, sont finalement assez minimes dans un pays comme celui-ci.
Oui, alors je serais un petit peu plus mesuré, si vous voulez. On commence à entrer seulement dans le côté sensible maintenant des destructions environnementales, et notamment sur le plan du climat. Combien sont les Parisiens qui ont suffoqué, carrément. C'est-à-dire quand vous avez une température dans votre appartement qui la nuit redescend pas en dessous de 30 degrés, c'est une horreur. Et ça vous épuise. Alors, je sais très bien qu'après, le souvenir s'estompe, etc. Mais ça n'arrête pas. Donc, je pense qu'on est quand même dans une phase, si vous voulez, où bah, petit à petit, les gens se rendent compte. Ils peuvent toucher, alors que jusqu'à maintenant, la grosse difficulté quand on avait, lorsqu'on parlait d'environnement, c'est qu'on parlait de futur lointain, de futur menaçant. Mais finalement, dans notre entourage, dans notre vie au quotidien, on ne voyait pas les problèmes.
Pardon, là, je vais être cynique, Dominique Bourg, mais on va finir tous par avoir la clim à la maison, à l'américaine, et on oubliera qu'il fait si chaud, non ? Pardon de le dire comme ça, mais... C'est aussi une possibilité.
Oui, alors c'est une possibilité. Je suis pas sûr que ça. On y arrive sur différents plans. Et puis il y a des gens qui de toute façon ont des revenus si modestes que de toute façon ils n'arriveront pas à acheter la clim. Donc non, vous n'aurez pas la clim partout. Et quand bien même vous auriez la clim, vous l'avez aux États-Unis. Quand vous sortez, c'est l'horreur. Ça veut dire que vous avez une vie cloîtrée. Mais moi, je voudrais revenir 30 secondes à la discussion d'avant.
Allez-y.
Pour qu'on soit un petit peu moins pessimiste, si vous voulez. Moi, je me souviens d'une proposition faite par des chercheurs. C'était avant la COP de Copenhague, avant 2009. Où ils avaient produit un papier qui était très intéressant, qui disait, OK, si on raisonne par pays, on n'y arrivera pas. Si on raisonne par classe de revenus, c'est complètement différent. Si vous regardez aujourd'hui, 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le fait de 10% de la population. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'effet Trump est très gênant. Parce que Trump, il incite les États-Unis à continuer dans la folie. Alors qu'en fait, si vous voulez que les Indiens, pour reprendre l'image de François tout à l'heure, François Gémen, n'aillent pas rechercher les pièces d'or qui vont finir par devenir assez brûlantes d'ailleurs, eh bien, effectivement, si nous ici, on ne fait pas des efforts, ben, ils vont le faire. Ils ne le feront jamais. C'est pourquoi, si vous voulez, la question du changement environnemental, elle est manifestement globale. Si nous, on commence à faire des efforts, eh bien, eux accepteront peut-être de ne pas rentrer dans un certain mode de consommation. On continue par les médias à leur faire croire que la vie qu'on a est en tout point géniale. Maintenant, regardez aux États-Unis. L'espérance de vie diminue. Si vous regardez le bien-être des populations occidentales, il en a pris un sacré coup ces 20 dernières années, etc., etc. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir. Moi je pense que c'est, j'espère, pas perdu, parce que je vous ai dit ce qui arrivait si c'était perdu, mais en tout cas, dans les années qui viennent, c'est pas impossible qu'avec un certain nombre de sursauts, on arrive peut-être à avancer. Et moi, la démission de Nicolas Hulot, elle me paraît intéressante parce que elle nous met frontalement devant la difficulté.
Ouais, mais encore une fois, elle nous met nous Français devant la difficulté. Si on essaye de se mettre à l'échelle du monde, qu'est-ce que ça pèse et qu'est-ce que ça dit en termes de sursauts, en fait, une démission comme celle-là, François Vigrette. Alors c'est bien pour nous, s'il y a un sursaut chez nous, mais je veux dire, à un moment...
On est sur une affaire franco-française, mais au-delà quand même, parce que la presse internationale en rend compte, je veux dire, la personnalité de Nicolas Hulot a un écho en Europe.
Vous croyez ?
Oui, j'ai vu des collègues d'autres ONG européennes en parler, des tweets de médias européens. Évidemment, c'est pas rien qu'un ministre... relativement récent du gouvernement français, engagé fortement sur la question de l'environnement, démissionne. Ça a un écho. Alors bien sûr, on ne va pas prétendre résoudre le problème mondial à partir de ça. Mais je voudrais revenir sur un aspect de ce qui a été dit auparavant. Le côté anxiogène. Je pense qu'il faut dépasser ça. Effectivement, ça peut paraître vertigineux de prime abord de penser qu'il faut changer de modèle et qu'il va falloir revoir un certain nombre de paradigmes du développement. On va changer les choses, on va sans doute consommer moins, consommer autrement, être plus économe sur l'énergie, sur les matières premières, etc. Mais ça ne doit pas être vécu comme chose de dramatique. Finalement, on est les générations qui ont aujourd'hui 20 ans, sont à la croisée des chemins, elles vont avoir un rôle formidable. Il va falloir relever ce défi. Si on ne le relève pas, effectivement, on va à la catastrophe. Mais si on le relève, si on accepte d'être innovant, si on accepte de prendre des risques, si on accepte de dépasser les égoïsmes entre les pays, les égoïsmes de classe dans les pays, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire pour l'humanité entière. Et c'est ce pari-là qu'il faut relever, en dépassant le modèle ancien, bien sûr, sinon on n'y arrivera pas.
Angélique Couronis, on vous a perdu tout à l'heure, on vous a retrouvé. Je voudrais juste vous entendre, vous êtes là Angélique ou pas ?
Oui, absolument.
Voilà, formidable. Je voudrais juste vous entendre sur une chose, justement, ce qu'on disait à l'instant, quelle est la prise de conscience des gens ? Qu'est-ce qu'on disait en Grèce cet été au sujet de ces incendies, justement ? Est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience quand même qui existe et qui dit, voilà, il faut qu'on change ? Est-ce qu'il y a des discours qui parlent de changer les modèles et changer les paradigmes chez vous ou pas ?
Alors, des discours, on n'en manque pas. Le problème, c'est les actes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Grèce cet été, c'est conjugation d'une absence totale de conscience civique, mais de ces 50 dernières années en Grèce, d'une absence tout aussi totale d'un État qui s'impose, qui impose ses lois et qui vérifie que les lois sont bien respectées, par exemple au niveau de la construction, au niveau du cadastre, au niveau de nettoyer les arbres, de couper les arbres, et puis aussi la conjugaison d'un manque de moyens qui fait qu'on n'avait pas de moyens. Donc là, il y a eu une grosse prise de conscience, parce que c'est quand même le plus grand désastre de l'après-guerre nationale. On a eu encore ce matin une victime supplémentaire, on est à 97 morts, et les personnes qui sont à l'hôpital sont dans un état critique, elles ont toutes leur à l'engager. Donc il y a une prise de conscience, il y a une grosse colère sur le mode l'État n'a pas fait, l'État n'était pas là. Mais on oublie de dire que oui, l'État n'était pas là, l'État n'a pas fait assez. C'est vrai que les restrictions budgétaires avaient moins d'argent pour les pompiers, qu'il n'y avait pas de pompe à incendie qui fonctionnait, moins d'eau, etc. Mais les citoyens, eux, n'ont pas nettoyé devant leur maison, ont construit n'importe quoi, n'importe où, ont bloqué l'accès à la mer, qui fait que les gens sont morts, mais comme des rats, dans des pièges qui n'auraient jamais dû exister. Et ça, cette prise de conscience qui dit « je m'implique », oui, l'État n'a pas fait ce qu'il fallait, mais moi, j'ai construit où je devais pas, moi, j'ai fermé la route, moi, j'ai pas nettoyé mon jardin, eh bien, ça, il n'y a pas. C'est toujours l'autre qui est fautif. Et c'est pour ça que ce type d'incendie, ce type de catastrophe naturelle, parce qu'on a eu la même version, mais avec de l'eau cet été en automne, où des régions ont été complètement inondées avec des dizaines de morts, pour la même raison, l'État s'est pas imposé, on a construit sur des rivières bétonnées, etc., etc. La Grèce est un immense désastre environnemental et ça continue.
Angélique, merci beaucoup. On va aller en Suède dans un instant, mais je vous voyais réagir, François Bayrette, sur le moi, effectivement, donc l'absence de cette conscience-là. Et on y reviendra parce que c'est peut-être le cas en Grèce, mais c'est pas le cas partout, précisément.
Oui, je crois qu'il y a des prérequis pour que les peuples acceptent le changement de modèle dont on parlait. Un des prérequis, c'est la justice sociale. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à des populations de faire des efforts si elles n'ont pas grand-chose ou rien. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est
des pays qui sont typiquement fait partie de ces pays qui sortent d'une situation.
Il y a sans doute
qui
une partie de la population à qui il faut demander beaucoup plus, qui consomme trop et mal. Et c'est d'abord à ces gens-là qu'il faut demander des efforts. Donc je crois que c'est absolument indispensable et indissociable de lier exigence, effectivement, au niveau des changements de comportement, des changements de mode de production. Mais ça passe par la justice sociale. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs dans le modèle de développement actuel et dans la politique de notre pays. C'est que, effectivement, on est dans une politique trop libérale qui n'implique pas cette justice sociale.
Et bien voilà des pays exigeants, des pays à État-providence, c'est en Europe du Nord que je voudrais qu'on aille tout de suite. Bonsoir Anne-Françoise Hiver.
Bonsoir.
Parce que de votre côté aussi, en Suède, incendie extrêmement violent, une très très grosse chaleur aussi, une chaleur très étonnante dans des pays nordiques comme les vôtres, et avec des conséquences souvent très inquiétantes. Juste en un mot, à quoi ça ressemblait chez vous et qu'est-ce qui s'est passé cet été?
Ça a commencé dès le mois de mai, quand vous en France vous plaignez d'avoir un printemps pourri. Nous, on avait déjà des températures records, 20-25 degrés, pas une goutte de pluie, donc on s'inquiétait déjà du niveau exceptionnellement bas des nappes phréatiques. Ça a continué au mois de juin, on a eu les incendies, au total 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Très vite, le pays n'a pas réussi à faire face, on a dû faire venir des pompiers d'Italie, de Pologne, même de France. Les autorités ont commencé par interdire les feux en forêt, puis dans les espaces publics et finalement chez soi. Alors là, il faut comprendre le traumatisme pour les Scandinaves, pour qui l'été rime avec barbecue. Et puis la chaleur a commencé à faire ses premières victimes. On a eu entre 300 et 400 personnes qui sont décédées selon les estimations. C'est sans compter le nombre de noyades records cette année, 97 seulement au mois de juillet, puisqu'on ne s'est jamais autant baigné. Plusieurs hôpitaux ont aussi décidé de suspendre les interventions chirurgicales pendant quelques semaines. Ils n'étaient plus capables de garantir la stérilité des instruments en salle d'opération. Enfin, et c'est assez symbolique, la pointe sud du Cap Nekez, ce sommet qui est à 2111 mètres d'altitude, le point culminant de la Suède, s'est fait détrôner par sa pointe nord au milieu de l'été. Il a perdu, tenez-vous bien, 14 cm par jour seulement sur le mois de juillet.
Et alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, Anne-Françoise, notamment sur les conséquences très directes. Regardez, on arrête certaines opérations parce que c'est compliqué pour les instruments, on est obligé de prendre un certain nombre de mesures, enfin on parle de 300 à 400 personnes qui sont mortes, c'est complètement délirant d'imaginer un bilan de cette sorte-là. Parlez-nous d'agriculture, juste une seconde, Anne-Françoise, parce que là-dessus, visiblement, là aussi, il y a eu des conséquences qui touchent directement à la vie des gens.
Oui, les conséquences sont assez dramatiques pour les agriculteurs des quatre pays nordiques. D'ailleurs, le coût est estimé, le coût de la sécheresse, donc qui est la pire enregistrée depuis 1860, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on a commencé à faire ce genre de mesures. Ce coût est estimé à 20 milliards de couronnes suédoises pour le moment, ça veut dire 2 milliards d'euros. Le problème principal est le manque de fourrage. Les bêtes n'ont pas à manger. En Suède, les files d'attente dans les abattoirs du pays sont interminables. On s'attend également à une hausse du prix de la viande, du lait, parce que les vaches assoiffées et mal nourries n'ont pas produit autant que d'habitude. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé en Suède 1,2 milliard de couronnes, donc 120 millions d'euros pour acheter du fourrage à l'étranger. Au nord, les éleveurs de rennes tirent aussi la sonnette d'alarme. Ils craignent que leurs animaux crèvent littéralement de faim pendant l'hiver. Et une autre conséquence de la sécheresse également, c'est la baisse de production d'électricité, notamment en Norvège, où l'hydraulique compte pour 97% de la production électrique du pays. Or, les rivières sont asséchées, ce qui a donc conduit à une augmentation du prix du kilowattheure d'environ 40% sur le marché nordique d'électricité Nord Pool cet été.
Et alors, ce qui est très paradoxal chez vous, on va y venir avec nos invités d'ailleurs, c'est que, alors là, pour le coup, et peut-être contrairement à la Grèce, on ne peut pas reprocher à la Suède, à la Norvège non plus, d'ailleurs au Danemark non plus, aux pays d'Europe du Nord, de ne pas avoir une vraie conscience environnementale et de ne pas faire de réels efforts dans ce sens-là.
Non, effectivement, j'entendais Angeline Coronis. Les Scandinaves, eux, ont la fibre verte dès le plus jeune âge. Hein, on leur apprend le tri sélectif, par exemple. Je ne parle pas de mettre le verre d'un côté et tout le reste de l'autre. Hein. Ici, on a une poubelle pour le papier, une pour le carton, une pour l'aluminium, le verre blanc, le verre coloré, le plastique, les piles, les déchets alimentaires. Les Scandinaves font du vélo, ils prennent les transports publics, ils installent des panneaux solaires sur le toit de leur maison, ils achètent des parts dans des coopératives éoliennes, bref. Ils sont sensibilisés. La conséquence, c'est que tous les partis parlent de la lutte contre les changements climatiques et que les Verts ne font donc pas de très gros scores aux élections. La sécheresse de cette année, cependant, pourrait avoir tiré les écologistes suédois d'une assez mauvaise posture. En 2014, ils sont entrés pour la première fois au gouvernement au sein d'une coalition avec les sociodémocrates. Ils ont été forcés à faire pas mal de compromis depuis, notamment sur la question de l'asile. Résultat, avant l'été, ils étaient à moins 4% dans les sondages. C'est le seuil minimum.
Et c'est en train de remonter.
Ils sont en train de remonter et donc l'été pourrait en quelque sorte les avoir sauvés.
Merci beaucoup Anne-Françoise Hiver.
Fabienne Synthès, 18-20 spécial sur France Inter.
Et François Gémen, je voudrais votre réaction là-dessus, parce que comme on le disait tout à l'heure, effectivement, voilà typiquement des pays en Europe du Nord à qui on peut difficilement reprocher leur manque de motivation autour de toutes les questions environnementales.
Bien sûr, on ne peut pas être nihiliste. Il y a des choses extraordinaires et très positives qui se font un peu partout dans le monde. On a parlé des pays scandinaves, il y a des choses en France aussi qui vont dans le bon sens, au niveau des régions, au niveau des municipalités, au niveau des individus. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui ont changé leur style de vie, qui ont changé leurs habitudes. Le problème, c'est que les efforts faits par les uns sont toujours annihilés par l'inaction des autres. Et Nicolas Hulot était ministre de la transition écologique et solidaire. Je pense qu'il faut en finir absolument avec ce concept de transition qui nous laisse imaginer qu'il va y avoir un mouvement naturel et spontané dans lequel tout le monde sera gagnant.
Et puis surtout qu'on a le temps. Dans la transition, il y a l'idée du temps long.
Qu'il y a pas d'urgence. On est aujourd'hui face à un moment où il faut faire des choix cruciaux. Et donc, si on essaye de contenter un peu tout le monde, ça veut dire qu'au final, on ne décide de rien et qu'on ne décide pas pour long terme. Et c'est pour ça que cet enjeu, c'est aussi un vrai enjeu pour la démocratie.
Et au fond, si Dominique Bourg, si les États sont inopérants pour la plupart, ou en tout cas difficilement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les entreprises ont plus de chances de faire bouger un certain nombre de lignes? Je vais le demander comme ça. Est-ce que la solution, c'est d'une multitude d'Elon Musk, en fait, qui fabriquerait partout des voitures électriques et qui, au final, gagnerait cette bataille-là, qui forcerait les autres aussi à aller dans ces directions-là? Est-ce que la clé, c'est pas par là qu'elle est?
Non, alors franchement, enfin,
alors, je vais revenir sur les entreprises parce qu'elles ont...
Oui, c'est franchement pas le bon exemple, mais pas parce que ce garçon est bizarre, mais simplement parce que si vous voulez une Tesla, au mieux, vous allez épargner à peu près 20% d'énergie par rapport à une voiture thermique de gabarit équivalent.
Ouais, mais c'est une réalité sur les voitures électriques aujourd'hui, malgré tout, Dominique.
Oui, voilà, mais parlez-moi plutôt déjà de Zoé. C'est déjà beaucoup plus intéressant que de parler de Tesla, qui est une espèce de faux truc écologique. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. En plus, il y a tous ces milliardaires déjantés qui nous racontent honte qu'on va aller sur Mars. Enfin, quand vous voyez que les opérations chirurgicales sont interdites, enfin, sont suspendues en Suède à cause d'une canicule, il faudrait peut-être que ces gens se calment et qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi à la population et que certains journalistes relient les propos stupides de ces gens.
Alors, je suis là-dessus sur le plancher des vaches. Mais effectivement, est-ce que la clé, elle n'est pas là?
J'en viens aux entreprises. Allez-y. Non, la clé, elle est, d'ailleurs, François Jamel vient de le dire, et les deux François d'ailleurs, la clé, elle est dans la synergie. On s'en sort si on bouge tous ensemble. Donc déjà, pas en se hissant les uns contre les autres. Et du côté des industries, bien sûr, il y en a qui font des choses assez extraordinaires. Alors, c'est pas tout à fait le cas des grands groupes, quand même, soyons assez clairs. Mais dans les industries moyennes, il y a des gens vraiment qui payent de leur personne et qui font des choses. Même si on doit réduire, si vous voulez, nos consommations, etc., il faudra quand même toujours qu'on consomme un peu. Hein. Je suis désolé. Donc, il faut quand même qu'on produise. Donc, le problème, c'est pas simplement de hisser les gens les uns contre les autres, mais c'est de trouver la synergie. Alors, normalement, c'est le politique qui donne la synergie. Mmh. C'est lui qui donne les règles. Les nôtres, plus du tout. Ils ont qu'un truc en tête, c'est croissance du PIB.
Mais c'est là où je voulais vous emmener.
Ils suivent.
Dominique Bourg, pardonnez-moi. C'est là où je voulais vous emmener. Est-ce que vraiment.
Ils font plus leur boulot. Voilà. Je suis désolé.
Mais est-ce que les entreprises peuvent mener par l'exemple, en fait, et au final, renverser cette vapeur-là? Est-ce que vous y croyez, ça?
Non. Alors ça, j'y crois pas du tout. Les entreprises peuvent faire des choses assez intéressantes, mais une entreprise, de toute façon, à son échelle, même si elle est très vertueuse, ça va nous donner, par exemple, ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, l'industrie, à lui tout seul, il peut rien faire. Faut arrêter avec ça. L'industriel pris dans des politiques publiques, où effectivement on va éviter les effets rebonds, alors là c'est très intéressant. Ce qu'il y a, c'est la synergie. Et pour qu'il y ait synergie, on a quand même besoin un peu de chef d'orchestre. Autrefois, les dirigeants, ils s'intéressaient au bien public et à le protéger. Dans l'ancien régime, je suis désolé, mais quand il y avait une fabrique qui tuait des gens, on l'arrêtait. Et aujourd'hui, s'il y a une fabrique qui tue des gens, on ne l'arrête pas. Et la fabrique qui tue des gens, c'est notre système général de production et de consommation. Donc nos politiques ne joue plus du tout le rôle qu'il joue, et quand il cherche à le jouer, ça vous donne un Nicolas Hulot qui démissionne par dissonance cognitive. Donc on a vraiment un problème, mais parce que on a effacé la fonction politique. Dans la doctrine néolibérale, les États sont des agents économiques comme les autres, un point c'est tout, on doit sortir de ça. Et la première chose à faire pour en sortir, c'est de resserrer les inégalités. Toutes les sociétés qui se sont effondrées, elles ont connu des inégalités délirantes. La nôtre connaît des inégalités délirantes. Si vous voulez que tous ensemble, on apprenne à moins consommer, il faut le faire tous ensemble.
En parlant de tous... Pardon, pardonnez-moi, excusez-moi Dominique Bourg, finissez votre phrase. Pardon.
Non, c'est parfait, merci beaucoup.
Je vous en prie. François Verrette, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on aille faire un aller-retour aux États-Unis sur l'histoire de Monsanto, parce que ça nous intéresse aussi sur le poids que nous avons, nous, tous, chacun. Vous vouliez ajouter quelque chose à ce que disait Dominique Bourg.
C'est ce que disait Dominique Bourg, est essentiel. La question, c'est la question de la place du politique. Aujourd'hui, on est dans une société mondiale dans laquelle on va passer des accords multilatéraux comme le CETA qui finalement vont mettre les États en deuxième rang derrière les puissances industrielles et financières. C'est autrement dit des tribunaux arbitraux privés vont pouvoir faire des procès à des États parce que ces États fixent des normes environnementales ou sociales. Là, on marche à l'envers. Si on veut pouvoir maîtriser ces crises environnementales gravissimes, il faut que les États ou les groupements d'États, je pense ici à l'Europe notamment, puissent fixer les règles du jeu industriel et non pas le contraire.
Alors justement, tiens, puisqu'on est en train de parler de ce que nous pouvons aussi, de ce qu'on peut à titre individuel et d'une faillite de l'État sur certains domaines, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour aux États-Unis, rejoindre Loïc Piala. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
C'est pas sur Trump que je vous attends et son départ de la COP21, c'est plutôt sur l'histoire de cet homme qui est jardinier et qui face à l'énorme machine Monsanto, là, il y a quelques jours, une poignée de semaines seulement, a gagné, alors on attend l'appel, hein, on est d'accord, mais a gagné son procès, a gagné surtout avec un chiffre faramineux, c'était une grande première, ça a été une amende record et ça a eu un certain retentissement, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, parce que ce procès a opposé pendant un mois Dwayne Johnson, ce jardinier quarantenaire dans la région de San Francisco. Il a donc été opposé au géant de l'agrochimie. Johnson, en fait, est atteint d'un cancer incurable qui provoque notamment des lésions cutanées graves. Et les médecins lui ont donné quelques mois à vivre. C'est pour ça que ce procès, le premier du genre, vous le disiez, s'est tenu aussi vite d'ailleurs. Johnson met en cause dans sa maladie le Roundup, un herbicide produit depuis 40 ans par Monsanto. Il l'a utilisé pendant plusieurs années dans le cadre de son métier. Et le jury a condamné Monsanto à 289 millions de dollars. Ça fait à peu près 245 millions d'euros en dommages et intérêts. Bayer, qui a racheté Monsanto en juin, a annoncé qu'il ferait appel. Le verdict est mauvais, dit le laboratoire allemand, parce qu'il va à l'encontre de centaines d'études scientifiques qui n'établiraient aucun lien entre le glyphosate, le composant principal du Roundup, qu'on connaît bien en Europe, et le cancer.
Alors, il y a une chose, moi, qui m'a frappée aux États-Unis, Loïc Piala, c'est que moi, j'ai l'impression que sur cette affaire, nous en avons fait les grands titres, nous, en Europe, au sens large. Aux États-Unis, bien sûr qu'on en a parlé, mais finalement, pas autant que nous et pas tant que ça. Est-ce que je me trompe?
Alors, c'est vrai, ça n'a pas été la grande affaire de l'été. De toute façon, dans un pays où Donald Trump est président, l'actualité, ça reste à Washington. Mais tout de même, tous les médias importants du pays ont parlé du procès et évidemment du verdict. Il faut dire que c'est une histoire à la David contre Goliath. Mm-hmm. Et qu'en plus, Monsanto n'a pas vraiment une cote de sympathie très élevée aux États-Unis. Mais par rapport à la France, où le débat sur glyphosate se joue au niveau parlementaire et gouvernemental, c'est vrai qu'il y a une différence. Ici, ça s'est joué devant les tribunaux, d'abord parce que c'est dans la culture américaine, mais aussi parce que l'EPA, l'agence gouvernementale de protection de l'environnement, a jugé en 2017, sous la présidence de Donald Trump justement, que le Roundup n'était pas cancérigène. Il y a donc aussi ce sentiment que les choses bougeront peut-être plus grâce au judiciaire qu'au politique. À noter dans ce procès que les avocats Johnson se sont appuyés sur le Centre international de recherche sur le cancer, installé à Lyon. L'organisme dépend de l'Organisation mondiale de la santé et il a classé le glyphosate comme produit potentiellement cancérigène en mars 2015.
Avec plus de 5000, autant que je sache, procès en vue, en tout cas procès 8000, bah voyez, comme quoi ça augmente chaque jour.
Le chiffre a changé après le verdict.
Ah ben voilà. Donc merci beaucoup, merci Loïc Piala pour votre intervention. François Vayrette, est-ce que effectivement c'est l'une des clés aussi ? Alors c'est très américain ça, mais c'est de se dire le judiciaire peut-être peut remporter ce genre de victoire en dépit de ce qui se passe par ailleurs.
Oui, alors ça c'est, on le voit heureusement, et pas seulement aux États-Unis, en France aussi. Je pense à mon ami le pauvre François, agriculteur rendu malade par un autre produit de Monsanto qui a gagné aux deux premières instances. Après, il y a eu le verdict a été cassé, il repart vers une procédure. Nous-mêmes, chez Génération Future, on a réussi à faire suspendre l'autorisation de mise sur le marché de deux insecticides à base de sulfoxaflore. Excusez-moi les détails techniques. Au début de cette année. Et heureusement, je veux dire, l'action juridique, c'est une action essentielle pour les organisations non gouvernementales et pour les particuliers et groupements de victimes. Mais elle n'est pas suffisante. Si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Parce qu'on arrive à endiguer des petits inconvénients, des petites manifestations de cette crise globale dont on parle, mais il faut après avoir des relais politiques pour traduire ça en action, en changement de système. Et c'est ça qui nous manque furieusement aujourd'hui.
Ça veut dire que ça ne servira à rien, ce procès Monsanto aujourd'hui, par exemple, quel que soit ce que dira l'appel, en fait, est-ce que quand même il y aura un impact réel sur Monsanto ou pas ?
Il sera essentiel si le verdict était confirmé en appel, et surtout si des procès de ce type se multipliaient. On voit bien l'impact que ça pourrait avoir sur la firme Bayer qui a racheté Monsanto, évidemment, ça pourrait potentiellement les ruiner, arrêter les choses. Mais derrière ce procès, il y a des systèmes à changer. Le système d'évaluation de la dangerosité des substances qui composent les pesticides au niveau communautaire et au niveau national. Et ces systèmes qui va les changer, ce sont justement les politiques qui doivent les changer. Donc on a besoin de relais, de politiques qui prennent conscience des dérives d'un certain nombre de systèmes pour changer les règles du jeu.
Mais ce que ça veut dire, François Gémen, et ce sera la phrase de conclusion sans doute avant Jean-Marc Four qui vient de s'installer, ça veut dire moi, individu d'abord, finalement. En fait, les choses au moins se sont inversées là-dessus. C'est l'individu qui poussera à un moment ou à un autre, on ne sait pas à quel moment, les États intervenir. Ça ne peut se passer que dans ce sens-là, vraisemblablement, en tout cas pour l'instant.
La clé, je crois, c'est de parvenir à transformer nos choix individuels en transformation collective. Et certainement, les procès judiciaires peuvent y aider, mais aujourd'hui, on ne pense pas encore suffisamment la question de l'environnement en termes de choix collectifs. Or, on voit bien que l'addition des choix individuels, l'addition des transformations individuelles ne suffira pas. Si tout le monde roule à vélo, mais qu'il n'y a pas de piste cyclable, ça ne suffira pas. Et on voit bien aujourd'hui à quel point l'intérêt collectif est menacé par la satisfaction de différents intérêts particuliers. On ne peut pas à la fois lutter contre le changement climatique et donner satisfaction aux chasseurs, à EDF, à Bayer Monsanto, comme on essaye de le faire aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu pour la démocratie qui est de retrouver le sens du bien public et de l'intérêt collectif.
Et merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à Un jour dans le monde. On n'a pas fini, le spécial continue sur France Inter, le 18-20 continue. Je voudrais qu'on termine cette heure avec vous, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir
Le
à
monde
tous.
À l'envers, comme tous les soirs, et cette fois vous aussi, donc vous avez décidé de mettre le nez dans la démission de Nicolas Hulot, en se disant que peut-être depuis ce matin, on se pose pas la bonne question, ou en tout cas on se la pose à l'envers, parce que cette question, on l'a un peu évoquée ici autour de nous, autour de cette table, part d'un présupposé, c'est que donc les gouvernements ont le pouvoir sur l'écologie, et vous vous dites, eh ben non, au fond, les gouvernements n'ont pas le pouvoir.
Oui, là, on va rebondir sur tous les thèmes que vous venez d'aborder. En fait, faisons simple, repartons effectivement de la question posée ce matin par Nicolas Hulot sur France Inter. Je cite, c'est une question de démocratie. Qui a le pouvoir? Sous-entendu, c'est tout de même au pouvoir politique de décider. Bah, si on sort de la petite controverse politique franco-française, on peut effectivement soutenir l'idée que, aujourd'hui, sur le climat et l'environnement, les gouvernements n'ont pas pris le pouvoir. C'est pas seulement le bilan de Nicolas Hulot qui est modeste, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est le bilan global des politiques à l'échelle mondiale. On passe sur les beaux discours à chaque édition de la COP, on regarde les faits, prenons l'Europe, le glyphosate échec, et c'est sans compter de très nombreux autres produits chimiques en circulation sans réel contrôle. La pollution de l'air, tous les grands pays européens ont été épinglés par Bruxelles au début de l'année pour non-respect de la directive sur le sujet. L'abandon du carbone, aucune évolution vraiment structurelle depuis 20 ans. Notre voisin allemand en particulier ne parvient pas à s'en débarrasser. Alors pourquoi ce bilan politique médiocre malgré l'urgence climatique? On peut avancer deux explications. Un, il n'y a pas de gouvernance mondiale. Pourtant, c'est bien le sujet qui le nécessiterait. Et l'Union européenne, par exemple, juge plus important de refouler les migrants que de sanctionner les pollueurs. Deux, il y a un problème crucial de temporalité. C'est-à-dire que les gouvernants veulent des résultats à court terme, si possible pour gagner la prochaine élection, hein, soyons cyniques, là où l'environnement nécessite une politique à long terme.
Donc ça veut dire que sur l'environnement et le climat, le pouvoir, il est ailleurs.
Oui, aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire qu'il est économique, macroéconomique et microéconomique. Je m'explique. La macroéconomie d'abord, vous l'avez évoqué là aussi tout à l'heure, l'avenir de notre planète repose en grande partie sur l'attitude des entreprises. Il y a un début d'espoir. 9 multinationales sur 10 considèrent désormais que l'environnement est une priorité, l'ont inscrit pour nombre d'entre elles dans leurs objectifs financiers. Et je parle pas là des milliardaires déjantés qu'évoquait tout à l'heure Dominique Bourg.
J'allais dire Dominique Bourg est en train de sûrement de pester depuis
l'OVA. Il faut évidemment ajouter l'industrie automobile qui détient une clé majeure, on le sait, l'abandon des énergies fossiles et des véhicules à essence. Faut pas s'y tromper, ce n'est pas de la philanthropie, c'est de l'intérêt bien compris à opérer la conversion. Ce sont les marchés de demain. Et là, contrairement aux gouvernants, vous avez des grandes entreprises qui résonne à 15, 20, 30 ans. En plus, il y a des fonds de pension qui tentent à investir de plus en plus dans les énergies renouvelables. La microéconomie ensuite, c'est le pouvoir de vous et moi, c'est sans doute là peut-être où l'écologie progresse le plus, les associations, les initiatives locales, vous évoquiez les procès contre Monsanto, on pourrait prendre un autre exemple, les circuits courts dans l'alimentaire, ce qu'on appelle les AMAP, la France en possède désormais 2000, ce qui veut dire à raison de 120 adhérents à environ par AMAP, de l'ordre de 250 000 personnes concernées quand même, c'est pas rien. Et là encore, en fait ce qui est à l'œuvre, c'est un raisonnement à temporalité longue, c'est-à-dire préserver sa santé et celle de ses enfants.
Donc, et on peut le déplorer, mais toujours est-il, c'est un constat, le politique n'a pas la main, c'est ce que vous dites.
Écoutez, en théorie, les dirigeants politiques peuvent beaucoup, par les incitations fiscales, par la commande publique, par les accords commerciaux, on l'a dit, en théorie. Dans les faits, aujourd'hui, le politique n'est efficace sur le sujet que dans deux cas de figure. Le premier, c'est le régime autoritaire. S'il le décide, précisément parce qu'il peut s'engager, lui, sur des durées longues. Ça peut ne pas plaire, ça peut choquer, mais c'est comme ça. Exemple type, la Chine, à un moment donné, elle décide la pollution, ça suffit. Donc, incitation financière considérable pour les voitures électriques. Résultat, aujourd'hui, dans le monde, une voiture électrique sur deux est vendue en Chine et la part des énergies fossiles est en train de diminuer sensiblement dans l'industrie chinoise. Deuxième cas de figure, les pouvoirs locaux, les municipalités. Vous avez des petites villes, vous avez des grandes métropoles aussi, comme le groupe C40, qui regroupe de grandes capitales. Là encore, il y a du volontarisme pour réduire le trafic automobile ou les déchets. Mais il faut dire que l'électorat dans ces grandes villes est plus aisé, plus sensible au sujet, moins tributaire aussi du transport automobile. Et en revanche, de nombreux gouvernements des démocraties libérales, qui pourraient montrer l'exemple, semblent inefficaces sur le sujet. Ils sont plus préoccupés du court terme électoraliste que du moyen terme planétaire.
Merci beaucoup Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers sur France Inter. La transition est parfaite finalement pour la suite. Le téléphone sonne, vous serez d'ailleurs François Vayrette, donc vous pouvez aller faire un tour pendant une petite vingtaine de minutes. Mais n'oubliez surtout pas de revenir. Merci à vous François Gémen, merci à Dominique Bourg aussi merci depuis beaucoup. Lausanne et qui nous entend. On continue donc avec Le téléphone sonne dans un instant. Ce sera à vous de jouer, à vous de poser vos questions autour de l'écologie politique, autour de ce qu'on peut faire, autour de cette démission aussi de Nicolas Hulot. Et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000. Il est 19h.